développement humain intégral des personnes en situation de handicap. Afrique subsaharienne 2025. Par le Dicaster pour le service du développement humain intégral. Je voudrais faire mémoire de ces exilés cachés qui sont traités comme des corps étrangers dans la société. De nombreuses personnes porteuses de handicap sentent qu'elles existent sans appartenance et sans participation. Il y en a encore beaucoup d'autres qu'on empêche d'avoir la pleine citoyenneté. L'objectif, ce n'est pas seulement de prendre soin d'elles, mais qu'elles participent activement à la communauté civile et ecclésiale. C'est un chemin exigeant mais aussi difficile, qui contribuera de plus en plus à former les consciences, à reconnaître chaque individu comme une personne unique et irremplaçable. Je me permets d'insister, il faut avoir le courage de donner la parole à ceux qui subissent la discrimination à cause de leur handicap, parce que, malheureusement, dans certains pays, on peine aujourd'hui encore à les reconnaître comme des personnes de dignité égale. Encyclique Fratelli Tutti, 98. Le pape François a confié au Dicaster pour le service du développement humain intégral la tâche, entre autres, de soutenir toutes les personnes qui s'emploient à éviter la marginalisation des malades et des personnes handicapées. Constitution apostolique prédicate Evangelium 171, à promouvoir leur inclusion et leur pleine participation au sein de la société et de l'Église. Accueillant avec joie cette tâche et en communion d'esprit avec le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, qui a mené au cours des années une démarche d'écoute et de réflexion sur ce sujet, le Dicaster pour le service du développement humain intégral a conduit, en mars 2024, une série de consultations sur le handicap en Afrique subsaharienne. Réalisée par voie télématique sous le titre « Développement humain intégral des personnes handicapées », ces consultations ont pour but l'élaboration d'un document qui offrirait, à partir de l'écoute de l'Église locale africaine et en se basant sur les principes fondamentaux de l'Église, des orientations pastorales pour répondre aux enjeux que le handicap pose dans le monde. Cette démarche a été lancée pour ouvrir un nouvel espace de dialogue, comme l'a affirmé, entre autres, l'Église en Afrique dans le document final de l'Assemblée synodale continentale africaine. En 2023, les voix et les valeurs africaines devraient être prises en considération lors de l'élaboration de la doctrine et des enseignements de l'Église. De même que devrait l'être la question des personnes handicapées, en encourageant et en mettant en valeur leur inclusion dans l'Église. Les églises locales de 30 pays d'Afrique subsaharienne ont participé à ces consultations, notamment des représentants de conférences épiscopales et de leurs commissions, de Caritas, d'ordres religieux, d'organisations catholiques ou d'autres institutions. L'objectif était de connaître et de diffuser des pratiques que l'église locale a développées pour relever les défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées au quotidien. Il s'agit aussi d'identifier les bonnes stratégies qui ont été mises en place pour répondre à leurs besoins sous différents aspects physiques, psychologiques, sociaux et spirituels. Pour ce faire, trois questions ont été formulées afin de faciliter et guider le dialogue. A. Quelles sont les principales activités menées par votre institution, organisation, pour soutenir, aider et promouvoir la pleine et effective participation des personnes handicapées? Accorde-t-on de l'importance à leur qualité de vie? Participe-t-elle à des projets d'inclusion sociale, éducation, travail, sport, etc.? Pourriez-vous donner des exemples concrets et présenter des bonnes pratiques? B. Travaillez-vous en réseau avec d'autres personnes pour partager les défis, les ressources et les bonnes pratiques? Si oui, pouvez-vous nous indiquer ces réseaux? C. Quels sont les problèmes et les enjeux propres au monde du handicap? La culture et les traditions locales ont-elles des répercussions sur l'attention aux personnes handicapées? Nous considérons ce document comme une œuvre écrite à plusieurs mains. La participation la plus importante et la plus fondamentale a été, bien sûr, celle des évêques, des prêtres, et des laïcs engagés dans la mission, ainsi que celle des personnes handicapées qui sont personnellement engagées dans la vie de l'Église et de la société dans son ensemble. Nous avons écouté ce qu'ils font déjà, leurs projets d'avenir, les défis auxquels ils sont confrontés et leurs tentatives d'y répondre. C'est avec gratitude et admiration que nous avons recueilli leurs contributions et essayé de rendre compte de l'immense travail que toute l'Église accomplit au niveau local. Des experts de diverses disciplines et de différentes régions du monde, y compris d'Afrique, venant du milieu académique et ecclésial, ont été ensuite consultés pour développer une réflexion pastorale à partir de ce qui a été écouté. Ce document, qui est un signe de l'intention de continuer à partager les bonnes pratiques, se veut une première réponse au besoin de travailler davantage en réseau et de poursuivre ensemble le chemin pour que ce soit véritablement un travail en commun. En affirmant que chacun de nous est invité à collaborer, selon ses possibilités, ad intra dans la communauté ecclésiale et ad extra dans la communauté civile, par des actions concrètes avec un sentiment d'appartenance. Voir l'encyclique Laudato si 151, 153 et 154. Ce document se veut aussi une aide à regarder l'avenir avec espérance, en reconnaissant et en mettant en valeur les semences, les germes et les fruits qui existent déjà. Contexte régional. Au cours des 10 dernières années, le nombre de personnes handicapées a augmenté au niveau mondial. Elles représentent 16% de la population mondiale, 1,3 milliard, dont 80% vit dans des pays en voie de développement, d'après les chiffres de 2021. En Afrique subsaharienne, les personnes handicapées représentent 15% de la population. Le Lesotho, le Gabon et l'Eswatini sont les États de la région qui ont le taux le plus élevé, entre 6% et 7%, tandis que le Zimbabwe, avec environ 2%, est celui qui a le taux le plus bas. Les handicaps les plus récurrents dans la population ayant plus de 15 ans sont ceux liés à la vue, 1,8%, à la mobilité, 1,6%, et à l'attention mémoire, 1,2%. Parmi les facteurs les plus associés au handicap figurent le contexte géographique, la pauvreté, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et l'emploi. En effet, les taux de handicap sont plus élevés dans les zones rurales, car elles sont plus éloignées des services de soins de santé, qui se trouvent généralement dans les zones urbaines. La pauvreté a un impact important dans ce domaine, car elle rend difficile l'accès aux services de diagnostic, de traitement et de réadaptation. L'avancée en âge peut également être une cause de handicap, et les inégalités entre les hommes et les femmes peuvent rendre inéquitable l'accès aux soins, souvent au détriment de la population féminine. Enfin, dans le domaine de l'éducation et de l'emploi, un cercle vicieux semble s'auto-alimenter. D'une part, les taux de handicap sont plus élevés chez les personnes ayant un faible niveau d'éducation. De l'autre, le manque de services inclusifs et de ressources économiques limite considérablement l'accès des personnes handicapées à l'enseignement supérieur. Synthèse des consultations. La synthèse exposée ci-dessous donne une vue d'ensemble, bien que partielle, de la réalité et des défis qui se sont dégagés des consultations. Certains exemples de réponses ou initiatives visant à relever ces défis, présentés dans le texte comme des bonnes pratiques, sont particulièrement intéressants. Inclusion sociale, soutenir, assister et promouvoir la pleine et effective participation des personnes handicapées. Sensibilisation. Comme il ressort des consultations menées, l'Église locale s'engage à promouvoir activement l'inclusion des personnes handicapées à travers une série d'initiatives de sensibilisation. Parmi les exemples mentionnés, plusieurs concernent l'organisation de réunions avec les responsables des communautés locales afin de favoriser l'inclusion des personnes handicapées dans les décisions et les activités liées au développement de la communauté, ou de réunions pour la réflexion et pour comprendre plus en profondeur le handicap et les barrières physiques et sociales auxquelles les personnes handicapées sont confrontées. Parallèlement, des réunions spécifiques se sont organisées à l'intention des parents et des aidants, où sont abordés des sujets liés à la santé mentale, à la gestion du stress et à l'autogestion de la santé, dans le but de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et le soutien mutuel. Le Kenya en est un exemple. Dans les archidiocèses de Kisumu et de Mombasa, ces réunions sont souvent encouragées pour que l'ensemble de la communauté puisse s'engager dans l'accompagnement et l'inclusion des personnes handicapées. En outre, dans les centres de réadaptation catholique destinés aux enfants handicapés, des membres du personnel qui sont eux-mêmes handicapés participent à la conception et à la fourniture des services thérapeutiques, donnant ainsi un exemple concret d'inclusion. L'Église utilise également des émissions de radio spécifiquement consacrées à la question du handicap pour atteindre un public plus large et sensibiliser davantage la société aux besoins et aux droits des personnes handicapées. Deux exemples ont émergé des églises locales. En Guinée-Bissau, où le radiodiffuseur catholique Radio Sol Mansi produit une émission hebdomadaire sur l'éducation inclusive qui sensibilise le public à la question du handicap depuis plus de 15 ans. Et au Mozambique, où grâce à Radio Maria et à d'autres moyens de communication, les activités d'assistance aux personnes handicapées sont très répandues dans les paroisses et dans la société en général. Éducation, formation professionnelle et emploi. L'Église locale s'engage à multiplier les chances des personnes handicapées de recevoir une éducation, une formation professionnelle et un emploi afin de promouvoir leur inclusion sociale et leur bien-être économique. Dans de nombreuses zones rurales, des écoles spécialisées et des foyers d'accueil ont été créés pour offrir un environnement sûr et stimulant dans lequel les personnes handicapées peuvent grandir et s'épanouir. En outre, une aide financière est fournie pour soutenir les études universitaires, afin que les personnes handicapées puissent accéder à l'enseignement supérieur et aux opportunités professionnelles. En Guinée-Bissau, le foyer Bambarane, qui accueille notamment les enfants handicapés qui ne sont pas admis dans les écoles locales, dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui contribue à leur développement cognitif, moteur et émotionnel, ainsi qu'à leur socialisation. Une autre initiative fondamentale est celle des cours de formation professionnelle, conçus pour aider les personnes handicapées à acquérir des compétences qui peuvent être utilisées pour lancer des activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à leur intégration sociale et à leur autonomie financière. Dans certains cas, l'Église offre également des terrains à cultiver, ce qui permet aux personnes handicapées de travailler la terre et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En Guinée-Conakry, le centre Regina Maris est une structure qui œuvre pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Il les soutient et accompagne en favorisant leur intégration sociale et professionnelle à travers des programmes de formation professionnelle et d'accompagnement individuel, contribuant ainsi à leur autonomie financière et à leur épanouissement. Dans certains cas, les personnes handicapées participent activement à la mission de l'Église, démontrant concrètement comment le travail peut être un instrument d'intégration. Le cas de Caritas Nigeria, qui emploie des personnes handicapées dans ses bureaux pour promouvoir leur travail et leur inclusion sociale, est exemplaire à cet égard. L'Église organise également des journées de formation sur différents thèmes, tels que le sport, qui favorise le développement physique et intellectuel, et les loisirs, qui favorisent la vie et le travail en commun. Parallèlement, des journées portes ouvertes sont organisées pour permettre aux personnes handicapées de montrer leurs talents, de découvrir et de partager leurs capacités avec la communauté. À l'île Maurice, un département spécialisé dans la catéchèse des personnes handicapées a été créé pour organiser des journées de formation visant à favoriser le bien-être et le développement personnel des enfants et des adultes handicapés à travers le sport et d'autres activités collectives. En outre, des cours de formation pour le personnel technique qualifié sont proposés afin de garantir un soutien adéquat aux personnes handicapées, ou des écoles pour l'éducation aux besoins spécifiques sont mises en place afin de former des enseignants capables de soutenir au mieux les personnes ayant un handicap visuel, auditif ou des difficultés d'apprentissage. C'est le cas en République de Djibouti, où le programme « L'école pour tous » vise à promouvoir l'inclusion dans les écoles des enfants et des jeunes handicapés ou ayant des difficultés d'apprentissage grâce à la formation continue des enseignants qui reçoivent les outils et les ressources nécessaires pour travailler avec des élèves en situation d'handicap. Un autre aspect important concerne l'accès au système bancaire local qui offre des financements à des taux préférentiels pour ceux qui souhaitent créer une entreprise ou faire face à d'autres besoins économiques. L'Église encourage également l'entraide économique afin de favoriser la solidarité entre les personnes et le bien-être collectif. En Zambie, la Caritas locale encourage l'intégration des personnes handicapées dans les cours de formation et les projets de développement liés à l'agriculture, en les faisant participer à la gestion des champs agricoles et au système bancaire du village d'appartenance. Suppression des barrières. L'Église s'engage activement à supprimer les barrières physiques et de communication afin de rendre les espaces plus accessibles aux personnes handicapées. Parmi les exemples mentionnés figurent des interventions réalisées pour supprimer les barrières architecturales, construction de rampes d'accès dans les églises, dans les écoles ou dans les centres de santé, et des initiatives prises pour la traduction de livres et de documents en braille et la promotion de la langue des signes, qui permet aux personnes sourdes de communiquer efficacement et de participer pleinement à la vie de la communauté. C'est le cas de la Mzansi Deaf Association en Eswatini, qui promeut l'indépendance des personnes sourdes en les intégrant à la vie de la communauté et en créant des projets de travail à leur intention. Dans le diocèse de Manzini, des messes sont célébrées pour les sourds en utilisant la langue des signes et des cours tenus par des sourds sont organisés pour que les entendants apprennent aussi la langue des signes. En outre, un projet de couture a été lancé pour les femmes sourdes qui fabriquent divers articles qui sont revendus pour soutenir le programme et fournir un revenu aux participantes. La même association, également active en Afrique du Sud, a favorisé l'adoption de la loi qui reconnaît la langue des signes sud-africaine comme 12e langue officielle. Il s'agit du premier pays au monde à reconnaître la langue des signes comme langue officielle. Participation active à la vie de l'Église et à la vie sociale. L'Église s'engage à favoriser la participation active des personnes handicapées à la vie de la communauté chrétienne. Un aspect fondamental de cet engagement concerne la catéchèse, qui est adaptée pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent recevoir les sacrements. À travers un parcours spécifique, les catéchistes s'emploient à rendre accessible l'expérience de la foi en offrant un soutien personnalisé qui tient compte des capacités individuelles, intellectuelles ou physiques. Dans certains cas, les personnes handicapées deviennent elles-mêmes catéchistes pour d'autres personnes handicapées. En République démocratique du Congo, le centre géré par la Congrégation des Frères de la Charité propose un accompagnement spirituel aux personnes handicapées. Des catéchistes spécialisés enseignent les bases de la catéchèse en tenant compte du degré de handicap de chaque personne. Afin de sensibiliser et d'améliorer l'approche éducative, des cours pour les catéchistes et les éducateurs sont organisés, offrant un approfondissement des différents types de handicap et de la psychologie qui leur est associée. Ces cours fournissent des outils pour adopter des méthodes d'enseignement plus efficaces, susceptibles de garantir une inclusion totale et consciente. C'est le cas du département spécialisé dans la catéchèse des personnes handicapées à l'île Maurice, qui propose ce type de formation aux catéchistes et aux éducateurs afin qu'ils acquièrent des approches et des méthodes pédagogiques adaptées pour travailler avec les personnes handicapées et les aider dans leur développement personnel. L'Église soutient non seulement la participation des personnes handicapées à la vie religieuse, mais aussi leur inclusion dans la vie sociale. L'une des initiatives les plus importantes dans ce domaine concerne l'engagement des personnes handicapées dans les associations de la société civile, afin de favoriser leur intégration et leur mobilisation dans des contextes plus larges. En outre, des initiatives pour leur faire connaître leurs droits civiques, tels que le droit de vote, sont promues et la participation active aux élections est encouragée. En Sierra Leone, Caritas Freetown promeut la participation et la représentation des personnes handicapées aux élections par des initiatives d'éducation civique et électorale qui les aident à accomplir plusieurs démarches, notamment l'inscription, l'obtention d'une carte d'identité ou l'exercice du droit de vote. Accès aux soins. Prévention, diagnostic, traitement, adaptation et réadaptation. L'Église locale joue un rôle fondamental dans la prise en charge spirituelle, matérielle et médicale des personnes handicapées. De nombreux établissements religieux offrent aux patients handicapés des soins de santé complets, consistant non seulement à prendre soin de leur santé et de leur bien-être en général, mais aussi à leur assurer un service de réadaptation dispensé par une équipe spécialisée et un accompagnement psychologique et psychosocial étendu même aux familles. La prise en charge des patients est soignée sous tous les aspects. Les nourrir, les laver, les habiller, les mettre à leur aise, afin de favoriser l'intégration et le bien-être global de la personne handicapée. C'est le cas du centre Ous Khatouna, au Soudan du Sud, créé principalement pour répondre aux besoins des enfants handicapés. Ici, les enfants sont suivis par des assistants sociaux qui s'occupent du recueil des données et de l'anamnèse, et par l'équipe de réadaptation qui procède à l'évaluation clinique et à l'identification du parcours de réadaptation le plus approprié. Les familles sont accompagnées, car il est essentiel qu'elles soient conscientes de l'importance des soins et de ce qu'ils comportent si l'on veut que le traitement progresse. Dans certains diocèses des zones rurales, il existe également des programmes de dépistage actifs, accompagnés de services de conseil et de suivi, au cours desquels les patients sont orientés vers des traitements spécifiques et suivis tout au long de leur traitement. Au Tchad, le centre Lo Njiatar, confié à la Congrégation des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie Auxiliatrice, offre des services de prévention, de conseil, de traitement et de réadaptation assurés par un personnel qualifié. Ces activités sont menées avec l'aide de facilitateurs intermédiaires locaux. Lors des visites, les patients sont orientés vers le traitement le plus approprié et l'état des anciens patients est vérifié. En Tanzanie, la conférence épiscopale soutient le travail de nombreux centres de réadaptation catholique situés dans 387 établissements de santé, dans la quasi-totalité des 35 diocèses du pays, qui promeuvent des services liés au dépistage et au conseil. Dans certains centres, les activités de prévention et de traitement couvrent aussi des maladies spécifiques telles que l'anémie falciforme, drépanocytose, les troubles liés au syndrome d'alcoolisme fœtal, SAF, et le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, TDAH, les malformations physiques et mentales, ainsi que les maladies orthopédiques. Dans ce contexte, l'Église est engagée aussi dans la fourniture d'aides prothétiques telles que fauteuils roulants, béquilles et d'autres prothèses afin d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. En Angola, par exemple, l'hôpital Da Divina Providencia fournit une assistance aux personnes atteintes d'anémie falciforme. Elles y reçoivent un soutien médical, infirmier, nutritionnel, psychologique et spirituel. Un soutien est également offert aux familles, afin de les aider à faire face à la situation et à assurer une prise en charge adéquate du patient. En Afrique du Sud, la Catholic Healthcare Association met à la disposition du clergé et des ministres laïcs une formation pratique, un service de mentorat, un soutien et des ressources pour atteindre les personnes handicapées affectées par le SAF/TDAH. Ces affections sont permanentes, mais largement évitables si elles sont diagnostiquées à un stade précoce et traitées par des interventions opportunes afin d'en atténuer les effets négatifs. Au Ghana, le Catholic Health Service Trust propose des services d'appareillage, de conseil et de formation à l'utilisation des appareils. Il dispose également de services mobiles dans tout le pays, ce qui constitue une bonne pratique afin de favoriser l'accès à ces services dans les zones reculées. Culture et tradition. Enjeux et difficultés. Stigmatisation et discrimination. Comme il ressort des consultations, dans les pays en question, en particulier dans les zones rurales, les enfants handicapés subissent souvent des formes de discrimination et sont par conséquent isolés et cachés par leur famille, qui a honte d'eux ou bien ils sont abandonnés. Les enfants handicapés subissent souvent des formes de discrimination même en dehors de la famille, par exemple dans des groupes de leur âge. L'exclusion sociale est aggravée par la pauvreté, car les personnes handicapées démunies ont plus de difficultés à surmonter ces obstacles et sont donc perçues comme un fardeau économique. À cela s'ajoute la difficulté à accéder à des services tels que l'éducation, les soins de santé et les services sociaux. Pour remédier à ce problème, les Sœurs missionnaires de l'Immaculée, qui ont des écoles dans la province de Bissora, en Guinée-Bissau, repèrent des enfants handicapés exclus de l'école et essayent de sensibiliser les familles et d'encourager la scolarisation. Un autre exemple de lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées est l'association Tigawende, au Burkina Faso, qui aide les personnes à apprendre des métiers manuels, ce qui leur permet de s'assurer un revenu et donc une reconnaissance sociale. La conférence épiscopale du Kenya a indiqué qu'il était prioritaire de mener des activités destinées aux agents pastoraux, aux travailleurs sociaux et aux dirigeants communautaires, dans le but de susciter l'empathie de la communauté à l'égard des enfants handicapés et d'inciter les parents aidants et les membres de la communauté à agir en faveur de ces enfants. Un parcours pour changer les mentalités. Les campagnes de sensibilisation menées ces dernières années, en les adaptant aux différents contextes, contribuent à changer les mentalités pour que les personnes handicapées soient considérées avant tout comme des personnes. Cette œuvre de sensibilisation a pour but de mettre en valeur la personne et faire en sorte qu'elle soit considérée comme une ressource et non comme un fardeau. Le diocèse de Doba, au Tchad, est un exemple. Le centre Lonjatar y mène des campagnes de sensibilisation à travers les radios locales et par l'intermédiaire de personnes handicapées qui sont formées aux activités de conseil et qui sont un exemple pour les personnes qui sont dans la même condition et leurs familles. Un autre exemple est le projet Handicap et vie dans l'Église, Grandir ensemble, dans le diocèse d'Atakpamé au Togo, qui vise à sensibiliser les fidèles chrétiens au handicap et à aider les personnes vivant avec un handicap à reconnaître quels sont les enfants bien-aimés de Dieu. La paroisse Notre-Dame des Sept Douleurs à Gléhi mène des actions de sensibilisation, de formation et de recensement des enfants handicapés dans les communautés chrétiennes catholiques de base. Les obstacles au développement humain intégral. Les obstacles au développement humain intégral des personnes handicapées comprennent le manque d'infrastructures adéquates pour les déplacements comme pour la prise en charge, manque de fauteuils roulants, de livres en braille, d'établissements de santé, de centres d'accueil, des compétences techniques limitées, connaissance de la langue des signes, mais aussi des barrières institutionnelles liées à l'apprentissage et au développement des compétences. L'absence de politiques économiques en faveur des personnes handicapées, la pauvreté et la diffusion d'informations erronées sur les handicaps. L'un des problèmes qui se pose est le fort déséquilibre entre le nombre de personnes qui ont besoin d'aide et les ressources limitées pour répondre à ces besoins. Ce problème est exacerbé par la pratique, malheureusement toujours présente, de dissimuler la naissance d'enfants handicapés, ce qui entraîne une sous-estimation des données démographiques. Trop souvent, les personnes handicapées se retrouvent livrées à elles-mêmes et sont exposées à des abus contre lesquels elles ne peuvent se défendre et elles sont rendues encore plus vulnérables par la situation de pauvreté dans laquelle souvent elles se trouvent. Parmi les activités soutenant le développement humain intégral, Citons l'école inclusive et le centre Braille au Cameroun, dont l'objectif principal est de permettre aux enfants de développer leurs compétences et de devenir indépendants. En Namibie, la Cheshire Home aide les enfants souffrant de handicap physique en leur fournissant des fauteuils roulants, en facilitant l'accès aux bâtiments scolaires, en leur offrant des soins de physiothérapie et en leur dispensant une éducation sanitaire. Le foyer Talita Kum vise également à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées par la chirurgie, la physiothérapie, l'éducation et la formation professionnelle. Au Sénégal, la Congrégation des filles de la Providence de Lisieux dispose d'un centre dédié aux personnes handicapées qui accueille des enfants de différentes religions et prend soin d'eux en leur assurant, entre autres, une éducation afin qu'ils puissent trouver plus tard un emploi. En outre, le Bureau diocésain de développement du Malawi, connu sous le nom de Commission catholique pour le développement, CADECOM, met en œuvre des projets visant à l'autonomisation économique des personnes handicapées en organisant avec elles des cours de formation à plusieurs métiers, tels que la couture, afin de les mettre sur la voie de l'indépendance. Dans de nombreuses paroisses, les personnes handicapées ont également la possibilité de participer à divers ministères pastoraux, par exemple en tant que lecteur et instructeur de catéchumène. Orientation pastorale. Orientation pastorale pour l'inclusion des personnes handicapées. Se basant sur l'écoute de l'Église locale en Afrique, les orientations pastorales exposées ci-dessous visent à fournir des éléments de réflexion, des observations et des indications pastorales en relation avec les défis posés par le handicap, suivant une approche qui, tout en partant du scénario local ou régional, s'adresse et s'étend à l'Église universelle. L'importance de l'écoute réciproque. De l'écoute des réalités locales se dégage un monde vivant et proactif, capable d'affronter les défis quotidiens avec foi, créativité et inventivité. C'est précisément cette écoute réciproque à laquelle nous sommes tous appelés, chacun avec ses propres capacités et potentialités, qui constitue une première indication pour l'action. La reconnaissance de l'autre est en effet le premier moyen pour construire une humanité capable d'apprécier, par la rencontre avec l'autre, la bonté de toute la création et de toutes les créatures. Livre de la Genèse, chapitre 1, versets 30 et 1. Comme nous l'a rappelé à juste titre le pape François, dans l'action pastorale, le travail le plus important est l'apostolat de l'oreille. Écoutez avant de parler, comme l'exhorte l'apôtre Jacques dans sa lettre. Chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Chapitre 1, verset 19. Après avoir écouté les rapports sur le handicap provenant de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, nous pouvons confirmer que nous sommes les enfants, et non pas les esclaves, d'une histoire qui a su porter un regard différent sur le handicap et mettre en place des démarches d'humanisation, en promouvant l'intégration contre toute forme d'exclusion et de marginalisation, et en réfutant toute interprétation non scientifique qui renforcerait des dynamiques non respectueuses de l'égale dignité de tous les êtres humains. Tout cela se fonde et se déploie avant tout dans une écoute disponible et réelle de tous les acteurs de ce monde. La nécessité de comprendre l'importance des facteurs sociaux. Il apparaît avec évidence que les facteurs socio-économiques, les croyances culturelles ou les barrières géographiques qui entravent encore l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux possibilités de réadaptation pour les personnes handicapées, en particulier les enfants, ont un impact important. La pauvreté largement répandue rend la vie déjà précaire des personnes handicapées encore plus difficiles, faute de mécanismes suffisants pour atténuer les entraves à la mobilité et offrir des aides à l'accessibilité. Les dispositifs d'assistance sont coûteux et souvent inaccessibles à ceux qui en ont besoin. L'action de sensibilisation que l'Église et la société civile doivent mener auprès des organes gouvernementaux compétents revêt donc une importance capitale. Il a été observé que les personnes handicapées sont plus vulnérables à la violence et à l'incapacité de prévenir et de signaler les abus de toutes sortes, physiques, psychologiques et sexuelles. Elles sont souvent exposées à de nombreux facteurs de risque. La pauvreté qui pèse lourdement sur la famille et qui fait que celle-ci n'a pas les moyens de payer les soins, le traitement et le transport. La malnutrition, le manque d'hygiène, l'insalubrité, les infections, l'incurie et les abus. Les personnes handicapées subissent encore de graves violences et abus physiques et psychologiques au sein de leur famille et une forte discrimination à l'école, dans la communauté et au travail. Elles sont souvent agressées et battues, tandis que les enfants sont cachés, maltraités et exclus des activités essentielles à leur développement. Pensons aussi aux personnes âgées qui, à cause entre autres de leur handicap, ont parfois l'impression d'être un fardeau. Encyclique Fratelli Tutti, 98. Il est alors nécessaire d'accorder une plus grande attention, au niveau pastoral, à la manière dont l'ensemble de la communauté considère ses frères et sœurs. Force est de constater que, même au sein de l'Église, nous ne sommes pas encore parvenus à créer des communautés où personne n'est exclu et où les pauvres passent en premier. D'autre part, nous assistons à des processus de prise de conscience, à une participation accrue et à une reconnaissance élevée des droits de l'homme, qui doivent être protégés en toutes circonstances, universellement. Il est donc d'une importance capitale que chaque diocèse, voire chaque paroisse, s'engage dans des actions de soutien et de sensibilisation dans ce domaine. Il est nécessaire et urgent de réfuter toute interprétation culturelle ou religieuse qui considère la maladie et le handicap comme une punition divine ou une possession diabolique, ainsi que tout lien avec la sorcellerie, la malédiction, le destin fataliste ou la malchance honteuse. Dans plusieurs cas, des enfants et des adultes sont sacrifiés, abandonnés, exclus et maltraités de diverses manières en raison de leur handicap. Toute interprétation qui conduit à l'exclusion n'est pas en accord avec l'évangile de la vie. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance », selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Comme nous l'a dit le pape François, on s'aperçoit bien des fois que, de fait, les droits humains ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Client, quand la dignité de l'homme est respectée et que ses droits sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et l'esprit d'initiative. Et la personnalité humaine peut déployer ses multiples initiatives en faveur du bien commun. Encyclique Fratelli Tutti, 22. Les initiatives de dialogue et de sensibilisation de la communauté peuvent là encore s'avérer extrêmement utiles pour faire connaître et comprendre davantage la réalité des personnes handicapées. Inclusion réelle. Il est à noter que la communauté chrétienne est de plus en plus consciente de l'importance de se sentir appelée à être exemplaire dans les démarches pour n'exclure personne. Les initiatives qui visent à l'émancipation des personnes handicapées, à leur inclusion et à leur participation à la vie des communautés chrétiennes, à leur développement éducatif et à leur maturation dans la foi, à leur accès à la vie sacramentelle et à leur pleine et effective participation à la vie pastorale, sont donc dignes d'intérêt. Nous promouvons la solidarité communautaire à partir d'un volontariat organisé, formé et supervisé. Où es-tu? Où est ton frère? Ce sont les premières questions qui apparaissent dans l'Écriture sainte et qui nous révèlent que nous sommes les gardiens les uns des autres. En posant cette question, Dieu met en cause tous les genres de déterminisme ou de fatalisme qui cherchent à justifier l'indifférence comme la seule réponse possible. Il nous dote au contraire de la faculté de créer une culture différente qui nous permet de surmonter les inimitiés et de prendre soin les uns des autres. Encyclique Fratelli Tutti, 57. Un handicap qui limite l'autonomie ne devrait pas être une raison pour ne pas cultiver une estime de soi saine et une vie de collaboration sociale et ecclésiale. Un exemple positif, ce sont ces personnes qui font ressortir le meilleur d'elles-mêmes et deviennent des références dans les domaines du sport, de la science, des aptitudes physiques et spirituelles, de l'art, en s'intégrant dans les communautés d'une manière collaborative et proactive. La technologie comme soutien. Toute aide apportée par le développement technologique, par la robotique ou par l'élaboration d'une utilisation sage et éthique des possibilités d'atténuer ou compenser les limites de la nature humaine est la bienvenue. Une mondialisation égalitaire de l'accès aux aides techniques se rend urgente pour que tout le monde puisse en bénéficier. Nous accueillons favorablement les moyens de communication alternatifs, numériques, applications, etc., lorsqu'ils permettent d'avoir accès à l'information, et encourageons leur utilisation dans les communautés chrétiennes, ainsi que l'élimination de toutes sortes de barrières architecturales. L'Église, en cela, est appelée à être une référence dans l'expérimentation de toutes les solutions possibles qui favorisent une plus grande inclusion et l'accompagnement des personnes qui souffrent. Quelques réflexions. La communauté chrétienne et tous ses membres sont appelés à travailler sans relâche et redoubler d'efforts pour l'intégration et l'inclusion des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et de la vie de l'Église. Il est important qu'il y ait des prophètes qui motivent et promeuvent une culture de l'inclusion des personnes handicapées afin de bâtir une Église qui soit une communauté où personne n'est exclu et où il n'y a pas de barrière. Nous pouvons marcher ensemble, les uns avec les autres, chacun avec son propre potentiel et ses propres capacités. Il ne s'agit pas d'un simple souhait, mais d'une réalité déjà présente dans de nombreuses communautés. Dans la société et dans l'Église, nous avons tous la même dignité intrinsèque, qui vient du fait que nous sommes tous des enfants de Dieu, appelés à vivre la vie avec joie comme une tâche et une responsabilité. Partant de cette reconnaissance, nous pouvons en arriver à dire « Vous êtes mes amis ». Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 14. Les pasteurs et les agents pastoraux devraient être formés pour comprendre ce qu'est le handicap, comment il affecte les personnes sur le plan social et ecclésial, comment les écouter et quels sont les défis auxquels elles sont confrontées. La formation doit les amener à être conscients et attentifs à leurs besoins. Dans l'Église synodale, tout le monde s'écoute et il est nécessaire d'accorder une attention consciente et qualifiée à tous les fidèles, sans exception, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. Mais une attitude proactive est nécessaire de la part de tous. La famille est le point de départ et le centre d'une véritable action pastorale auprès des personnes handicapées. C'est la famille qui est la première à incarner un accueil sans exclusion. C'est la famille qui est le lieu où l'on apprend à prendre soin les uns des autres, tout en ayant besoin d'un soutien et d'une aide de la part de la communauté. Ainsi, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voir là, première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Les personnes handicapées ne sont pas de simples destinataires d'orientation pastorale, mais des sujets actifs dans la vie de l'Église, des familles ou des institutions qui s'occupent d'elles. Il est urgent de changer de paradigme dans notre vision, à la lumière du magistère qui affirme que tous les fidèles font partie du peuple de Dieu dans la mesure où ils sont incorporés au Christ par le baptême, où ils participent aux fonctions sacerdotales, prophétiques et royales du Christ, et où ils exercent dans l'Église et dans le monde la mission de l'ensemble du peuple chrétien. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller au-delà de toute approche d'assistanat en inaugurant un nouveau paradigme qui respecte l'individualité et la pleine et effective participation des personnes handicapées. Conclusion. Les consultations ont mis en évidence, d'une part, l'importance de répondre instamment à l'appel du pape François à éviter la marginalisation des malades et des handicapés, de l'autre, l'ampleur et la profondeur de l'engagement de l'Église en Afrique en faveur des personnes handicapées. Il s'agit d'une action vaste et multiforme qui touche différents aspects de la vie des personnes handicapées et de leur communauté. Il est apparu très clairement que l'Église est engagée à promouvoir leur dignité, à lutter activement contre la stigmatisation, les préjugés et l'exclusion sociale qui trop souvent les entoure. Encyclique Fratelli Tutti 22. Cet engagement se traduit par une série d'initiatives concrètes visant à faire évoluer le discours sur le handicap, passant d'un discours fondé sur la compassion et l'assistanat à un discours axé sur la promotion des droits, des capacités et de la contribution potentielle de chaque individu. Bon nombre des initiatives décrites montrent qu'un changement culturel positif est en train de s'opérer dans la manière de percevoir la condition de handicap. Par son action de promotion humaine, l'Église aide à éradiquer les préjugés et les superstitions en promouvant une culture de l'inclusion et du respect. La sensibilisation, par exemple, à travers la radio catholique, est un autre élément souvent indiqué comme étant essentiel dans la démarche de changement culturel. Ce changement se manifeste sous des formes extrêmement variées qui répondent aux besoins spécifiques des différents territoires et, dans certains cas, au charisme des réalités qui les promeuvent. Des écoles ou des centres spécialisés pour l'éducation et la formation, la promotion de la participation active à la vie ecclésiale et sociale, la sensibilisation des communautés locales, la formation d'agents pastoraux et de laïcs capables d'accompagner les personnes handicapées ainsi que leurs familles. Ce qui ressort des contributions est une réalité parfois profondément marquée par des préjugés ou par des visions liées à des éléments culturels ancestraux, dans certains cas magiques ou superstitieux. D'une part, il est clair que de telles conceptions ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne et le travail des différentes réalités ecclésiales qui s'emploient à surmonter ces croyances est donc méritoire. D'autre part, il faut éviter l'erreur qui consiste à considérer ces phénomènes comme n'appartenant qu'à un contexte particulier. Sous toutes les latitudes, le cœur du problème reste le même. Les personnes handicapées sont-elles considérées des personnes comme les autres ? Le sentiment de supériorité, le paternalisme, la violence et les préjugés, même s'ils se manifestent de façon apparemment différente, sont présents partout. Les contributions reçues laissent entrevoir la nécessité d'un changement significatif dans l'approche à l'égard des personnes handicapées, et les églises locales qui sont intervenues dans les consultations ont fait quelques suggestions à ce propos. Tout d'abord, il a été souligné qu'il est important de promouvoir la connaissance mutuelle et une plus grande coordination entre les réalités qui s'occupent des personnes handicapées. Le travail en réseau a été d'ailleurs mentionné lors de la première session du Synode des évêques, rappelant que les chrétiens ont le devoir de s'engager à participer activement à la construction du bien commun et à la défense de la dignité de la vie, en s'inspirant de la doctrine sociale de l'Église et en agissant sous diverses formes, engagement dans les organisations de la société civile, les syndicats, les mouvements populaires, les associations de base, le champ politique, etc. Deuxièmement, il a été jugé important qu'une déclaration ou un document pontifical sur les personnes handicapées émane des consultations, afin de sensibiliser les diocèses et l'Église dans son ensemble à la question des personnes handicapées, non seulement pour qu'elles soient accueillies, mais aussi pour qu'elles aient une voix, une place concrète dans la vie ecclésiale et sociale, leur permettant de participer activement à la vie de la communauté. Troisièmement, il a été reconnu que, pour construire une société plus juste et plus inclusive, à l'abri des préjugés, il est nécessaire d'améliorer la collaboration entre l'Église et les institutions politiques locales afin de promouvoir des politiques qui placent les personnes handicapées au centre. Dans ce contexte, il est proposé de développer des initiatives stratégiques qui favorisent une plus grande acceptation et intégration sociale des personnes handicapées en promouvant leur autonomisation et leur indépendance. Il est indéniable que l'action dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'assistance sociale, sans discrimination ni exclusion de quiconque, est un signe clair d'une Église qui promeut l'intégration et la participation des plus pauvres en son sein et dans la société. Les organisations actives dans ce domaine sont invitées à se considérer comme une expression de la communauté chrétienne et à éviter un style impersonnel de charité vécue. Elles sont également invitées à travailler en réseau et à se coordonner. La voie vers la pleine inclusion et la réalisation du potentiel des personnes handicapées passe aussi concrètement par la suppression des barrières architecturales. C'est pourquoi les églises soulignent l'importance d'intervenir au niveau des infrastructures. En apportant des modifications ciblées pour réaliser de structures sans barrières et garantir ainsi à tout le monde la possibilité de bénéficier des espaces et des services. Elles appellent à promouvoir des interventions ciblées en faveur des personnes handicapées, aussi dans d'autres domaines, notamment l'éducation, la formation d'enseignants ayant des compétences pas spécifiques et l'accès à une protection sociale adéquate. Il est important que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une formation de qualité, de services de dépistage et d'un soutien social adéquat pour leur permettre de vivre pleinement et dans la dignité. Afin de répondre de manière adéquate aux besoins des personnes handicapées, il est essentiel de promouvoir la formation des pasteurs et des agents pastoraux pour offrir des expériences cognitives de formation sur les différents handicaps cognitifs, intellectuels, sensoriels, moteurs, neurologiques et leurs différents degrés, légers, moyens, sévères, et sur les besoins liés à la vie quotidienne des personnes handicapées. Dans l'Église synodale, tout le monde s'écoute et il est nécessaire d'accorder une attention consciente et qualifiée à tous les fidèles, sans exception, y compris ceux qui souffrent d'un handicap, en faisant place et en incitant à une attitude proactive de la part de tous. Afin de trouver de nouvelles voies et un style propre à chaque région et ou pays, il est nécessaire de mettre en lumière et en valeur les bonnes choses qui sont déjà faites, afin de développer ses capacités à innover à partir des valeurs de sa culture. Encyclique Fratelli Tutti, 51. Il est important de reconnaître et de célébrer les progrès accomplis, les réussites et les bonnes pratiques qui peuvent inspirer et guider d'autres actions, en favorisant une connaissance mutuelle dans la collaboration entre les réalités les plus importantes qui travaillent en faveur et avec les personnes handicapées, éventuellement avec une attention transversale dans toutes les pastorales. Le Dicaster pour le service du développement humain intégral, fidèle à sa tâche de promouvoir le développement humain intégral pour tout le peuple de Dieu, s'insère dans ce contexte à travers la section « Écoute et dialogue » en accompagnant les réalités locales et en initiant des processus de dialogue et d'échange de bonnes pratiques, d'expériences et de ressources, conscient que, en promouvant la co-responsabilité pour la mission de tous les baptisés, nous reconnaissons les capacités apostoliques des personnes handicapées qui se sentent appelées et envoyées comme agents actifs de l'évangélisation. Nous voulons valoriser la contribution qui vient de l'immense richesse d'humanité qu'elles apportent avec elles. Nous espérons que ce document apportera une contribution pastorale concrète permettant de diffuser et de faire connaître ce qui existe déjà et ce qui se fait au niveau local et national. Remerciements. Nous remercions les diocèses, les congrégations et les organisations catholiques qui ont contribué à la réalisation de ce document en apportant leurs témoignages ainsi que de la documentation photographique sur leur travail inestimable en faveur de la promotion du développement humain intégral des personnes en situation de handicap. Vous avez écouté Le développement humain intégral des personnes handicapées en Afrique subsaharienne, publication de 2025. Par le Dicaster pour le service du développement humain intégral, production audio et montage sonore réalisé par la société Calédon.